La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Science et militantisme ne font pas toujours bon ménage, loin s'en faut. Et c'est cette vérité historiquement étayée que vient spectaculairement rappeler Histoire d'un mensonge, un essai vif dans lequel Thibault Le Texier démonte l'une des expériences les plus célèbres sans doute de psychologie, la fameuse expérience de Stanford. Et au-delà de la réfutation de la mise à nu d'une manipulation, c'est plus largement la question de la médiatisation de la science qu'il vient à poser dans ce livre dont nous parlons aujourd'hui avec Thibault Le Texier, à la suite dans les idées. Des questions épistémologiques, des questions qui ont trait aussi à la manière de montrer, de rendre visibles les expériences scientifiques. Il sera question dans la seconde partie de l'émission, puisque Thibault Le Texier dialoguera avec Thomas Himes, qui est biologiste et qui est également romancier. Mais avant ça, on va revenir sur cette expérience de Stanford. Thibault Le Texier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences sociales, associé à l'Université de Nice, oui. Et vous publiez donc Histoire d'un mensonge chez Zone, qui est une enquête sur l'une des expériences de la psychologie, si ce n'est l'une des expériences les plus importantes pour l'histoire, en tous les cas l'une des plus médiatisées, incontestablement. Elle a fait l'objet de beaucoup de reprises et très au-delà du cercle académique. À la fois, elle est reprise dans les manuels de disciplines psychologiques, mais aussi plus largement de sciences sociales, mais elle a également été reprise par l'industrie du cinéma, par la télévision, etc. On y reviendra. Avant d'y revenir, j'aimerais très simplement que vous nous expliquiez quel a été le dispositif de cette expérience qui s'est réalisée, je ne donne que cette indication pour ma part, en 1971 sur le campus de l'université de Stanford, d'où son nom, expérience de Stanford.
Oui, donc c'est le professeur Philippe Zimbardo, professeur de psychologie à Stanford, qui a recruté une vingtaine d'étudiants par une petite annonce qu'il a fait passer dans le journal de Palo Alto. Et il a assigné au hasard la moitié de ses volontaires au rôle de gardien et l'autre moitié au rôle de prisonnier dans une fausse prison. Il y avait trois cellules qu'il avait aménagées dans le sous-sol du département de psychologie. Donc il leur a donné des costumes, il leur a donné des équipements comme des matraques par exemple aux gardiens et des lunettes de soleil pour cacher leurs yeux, pour les désindividuer. Et ensuite, il a laissé tout ce monde-là dans la prison et lui s'est contenté, selon la version officielle, de fermer la porte et de regarder ce qui se déroulait dans sa fausse prison. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une escalade dans la violence. Les gardiens sont devenus de plus en plus brutaux, sadiques. Ils faisaient faire des pompes aux prisonniers, ils les réveillaient en pleine nuit. Ils leur infligeaient des séances de comptage interminables. Si bien que cinq prisonniers ont fini par faire une dépression nerveuse. Et que Philippe Zimbardo a dû interrompre l'expérience au bout de 6 jours, alors qu'elle devait durer 2 semaines.
Alors voilà, ça c'est la version présentée par le chercheur lui-même.
La version officielle.
La version officielle de l'expérience. Et cette version, on va la retrouver, comme je le disais, à la fois dans la littérature qui fait le point sur l'état des savoirs en psychologie, dans les manuels. On va la retrouver aussi réappropriée dans des formes de culture générale, de culture populaire. Ça va devenir une expérience référence. Il faut dire qu'elle tombe à un moment particulier, puisque la question de la prison va se poser de manière concomitante dans l'actualité la plus brûlante des États-Unis de l'époque et même de la Californie en l'espèce, Thibault Le Texier.
Oui, tout à fait, parce que quelques jours après l'expérience, il y a eu une tentative d'évasion à la prison de San Quentin au nord de San Francisco qui tourne mal et un militant très célèbre des Black Panthers, George Jackson, qui est assassiné. Et donc, ça va donner lieu à beaucoup de reportages. Aussi, il y a des manifestations à la suite de cet assassinat. Et un mois après, il y a la tentative de... Non pas une tentative d'évasion, mais il y a l'émeute dans la prison d'Attica.
La mutinerie d'Attica.
La mutinerie d'Attica, tout à fait. Qui va faire des centaines de morts. Et donc, à ce moment-là, la prison va être de nouveau sur le devant de la scène. Et à chacun de ces événements, Philippe Zimbardo va être invité dans les médias en tant qu'expert sur la prison. Il va témoigner devant le Congrès des États-Unis aussi. Et ça va devenir un peu le monsieur prison des journalistes américains.
Alors, Philippe Zimbardo, professeur de psychologie à Stanford, avait une idée derrière la tête, il en avait un certain nombre, on le verra, mais la plus évidente et la plus simple, c'est que s'il a mis au point cette expérience, c'était de manière à montrer les conséquences terribles du milieu carcéral. Donc, c'était un geste, une forme d'engagement. Il voulait faire une démonstration scientifique. Je parlais dans l'introduction de l'émission de militantisme. On peut pas dire véritablement que Zimbardo était un militant au sens classique du terme, mais c'est quelqu'un qui était plutôt en sympathie avec cette critique de la prison.
Oui, tout à fait. Et plus généralement, avec la critique de l'autorité, on est en pleine contre-culture, le mouvement hippie, il y a une remise en question de l'autorité. Il y a beaucoup de manifestations étudiantes contre le Vietnam. Donc, Stanford est moins politisé que Berkeley, qui n'est pas très loin, mais c'est quand même un moment où la jeunesse est en ébullition. Et Zimbardo, dans un côté très démagogique aussi, peut-être plus que militant, qui va épouser cette critique de l'autorité et qui va imaginer son expérience comme une démonstration de la nocivité de la prison. Il le dit très clairement, hein, il écrit les conclusions de l'expérience dès le début, en fait, en disant on va montrer les effets nocifs de l'environnement carcéral sur les individus. Et on va montrer que on peut prendre des individus qui sont bons, qui sont sains, qui sont normaux, et le simple fait de leur donner un uniforme de gardien va en faire des tortionnaires, des nazis.
Alors cette expérience, elle va entrer dans la littérature de la discipline, etc. Elle va toucher le grand public à certaines occasions, quand la question de la prison ressurgit ici ou là dans l'actualité. Mais le grand retour, c'est 25 ans plus tard, au moment où la terre entière découvre la prison d'Abu Ghraib, les photos, les fameuses photos qui montrent des soldats américains maltraitant ces prisonniers. Et à partir de là, on va assister à sans doute ce qu'on peut considérer comme l'écho le plus fort de cette expérience, Thibault Le Texier.
Oui, tout à fait. L'expérience retrouve une seconde jeunesse à cette occasion-là. Abu Ghraib, alors c'est en octobre 2003 et c'est médiatisé en avril 2004.
25 ans plus tard, grosso modo.
Et donc, à cette occasion, un journaliste de la National Public Radio se souvient de l'expérience de Zimbardo, l'invite sur le plateau et Zimbardo, en gros, montre que son expérience avait prédit Abu Ghraib et il va être par la suite, il va devenir l'expert témoin pour l'un des gardiens qui a été accusé à Abu Ghraib et donc il va avoir accès au dossier. Et ça va devenir de nouveau le monsieur prison des journalistes américains. Il va faire la tournée des plateaux, du Stephen Colbert Show, encore une fois la National Public Radio, les plus grandes chaînes de télé vont l'inviter. Et il va mettre de nouveau l'expérience sur le devant de la scène médiatique.
C'est ça qui va conduire au fait que la télévision, le cinéma s'emparent de cette histoire ?
Oui, même s'il y a eu un film de fiction allemand qui a été fait avant, en 2001, et qui a eu beaucoup de succès, qui est un film qui est très bien réalisé, mais bon, qui est une fiction, hein, qui part du protocole de l'expérience, mais ensuite qui dérive complètement, où là, il y a un chercheur qui se fait violer, un autre qui se fait tuer, je crois. Enfin, c'est vraiment, on s'écarte complètement de la réalité de l'expérience. Et c'est un film qui a été, il y a eu un remake américain. Mais ça va donner lieu à un livre, en fait, en 2007, où Zimbardo va faire un livre qui s'appelle L'effet Lucifer, où il raconte à la fois le détail de l'expérience de Stanford et le détail d'Abu Ghraib en faisant de nombreux parallèles. Et c'est un livre qui va avoir beaucoup de succès, qui va être sur la liste des best-sellers du New York Times, qui va de nouveau donner de l'actualité.
Traduit très largement dans le monde.
Oui, en 25 langues, oui. Et donc ça va donner un nouvel écho, encore une fois, à l'expérience.
Alors il faut bien comprendre, c'est pas non plus la première fois que Zimbardo a l'occasion de mettre en scène au fond cette expérience et ses résultats entre guillemets, puisque très rapidement après l'expérience, il produit cette version officielle, un diaporama. Il est très soucieux finalement de la mise en forme, de la mise en spectacle de cette expérience.
Oui, l'expérience est vraiment pensée comme un happening. Elle est filmée par une caméra cachée dans un mur. C'est une sorte d'émission de télé-réalité avant la lettre. Zimbardo invite des journalistes à visiter l'expérience. Il invite des photographes. Il fait venir un caméraman qui l'amène lui-même en voiture pour filmer les arrestations et les premiers jours de l'expérience. Et il va faire un communiqué de presse dès le deuxième jour de l'expérience et un autre communiqué de presse le jour même où se termine l'expérience, alors qu'il écrit lui-même qu'il a perdu 4 kilos, qu'il n'a pas dormi depuis 48 heures. Et pourtant, il va faire ce communiqué de presse dans tous les États-Unis où il écrit les conclusions de l'expérience.
À une époque, faut le préciser quand même pour pas faire d'anachronisme, à une époque où probablement, j'imagine, la recherche scientifique prenait moins en charge ce volet communication qui est désormais omniprésent. Je pense que tout le monde n'était pas un tel attaché de presse de son propre travail, si j'ose dire, quand on était chercheur à l'époque, au début des années 70. Même oui, en Californie.
Oui, c'est une sorte de pionnier de la médiatisation de la recherche. C'est quelqu'un qui prend vraiment en charge son propre travail de communication. Et donc, il va faire ce diaporama dont vous parlez, qui est une sorte de PowerPoint avant la lettre, avec du son aussi, où il va mettre des musiques de films. Ça va être très dramatisé. Et il réalise ce diaporama avant d'avoir fini de dépouiller complètement ses données. Et très vite, en fait, il va assez peu se soucier de la véracité de ce qui s'est passé, mais plutôt de comment raconter cette histoire de la façon la plus choquante possible.
Alors, maintenant qu'on a donné tous ces éléments, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous en êtes arrivé à travailler sur cette expérience. Qu'est-ce qui vous a attiré? Je crois que c'est d'abord justement la rencontre d'images qui vous a aimanté. Et votre projet initial n'avait que très peu à voir avec le livre que vous publiez aujourd'hui.
Oui, tout à fait. En fait, moi, c'est cet aspect médiatique qui m'a intéressé. C'est en découvrant que l'expérience avait été filmée, qu'il y avait ces images d'archives assez étranges, en noir et blanc, dans des longs plans séquences comme ça, qui filmaient le couloir de la prison. On voyait les prisonniers faire des pompes, les gardiens leur faire subir toutes sortes de sévices. C'est ces images qui m'ont vraiment choqué et attiré vers l'expérience, que je connaissais un petit peu par ailleurs, mais qui m'intéressait pas plus que ça. Et donc j'ai eu l'idée d'en faire un film utilisant uniquement les archives de l'expérience, donc les archives vidéo et aussi les archives papier, d'aller retrouver les témoignages des gardiens et des prisonniers, donc de vraiment faire un film de found footage, c'est-à-dire uniquement avec des matériaux trouvés et très peu d'interventions de ma part. Et donc c'est comme ça que je suis allé dans les archives de l'université où j'ai découvert le poteau rose.
Alors, ça aurait été un film documentaire au sens propre, c'est-à-dire qui aurait documenté cette expérience avec les matériaux trouvés, d'où la nécessité pour vous d'aller chercher des archives d'images, mais aussi des documents écrits qui vous auraient servi à faire ce film. Mais comme vous le dites, vous êtes tombé assez rapidement, en fait, sur ce que vous appelez désormais le poteau rose.
Oui, parce que les archives, en fait, vraiment montrent sans ambiguïté de multiples manipulations, beaucoup de choses qui sont passées sous silence ou qui sont interprétées de façon partiale, des témoignages contradictoires de gardiens, des faits qui ont été occultés, comme le fait, par exemple, que l'expérience est une réplication, en fait, d'une expérience qui a eu lieu 3 mois plus tôt, qui a été faite par des étudiants de Zimbardo dans un dortoir, dont il a repris le protocole, dont il a repris le règlement de la prison, dont il a repris l'emploi du temps qui était donné aux gardiens. Donc tout un ensemble de choses qui étaient présentées comme une invention des gardiens, une sorte de génie sadique qui s'était libéré comme ça spontanément chez les gardiens, était en fait complètement préparé, leur avait été donné, ils avaient été formés, ils avaient des instructions. Et quand ils suivaient pas la lettre des instructions, ils étaient recadrés par les scientifiques qui les convoquaient dans leur bureau pour leur tirer les oreilles. Donc tout ça est assez visible dans les...
L'archive qui n'a même pas cherché à détruire visiblement, elles sont à disposition de qui veut... se donner la peine d'ouvrir les cartons.
Oui, depuis 2011 en fait, le moment où elles ont été confiées à la bibliothèque de Stanford, mais avant elles étaient dans le bureau ou au domicile de Philippe Zimbardo. J'ai pas réussi à trouver exactement où elles étaient, mais en tout cas il contrôlait l'accès à ces archives, ce qui n'est plus le cas depuis 2011.
Donc elles sont déposées à l'université. Alors vous avez fait un travail très méticuleux pour démonter tous les problèmes méthodologique que pose l'expérience, qu'on peut résumer assez simplement, au fond, en disant, vous m'arrêtez si je me trompe, qu'il s'agit pour Zimbardo de mettre en scène une idée qu'il a avant même que l'expérience commence, c'est-à-dire que en fait, il invente une sorte de performance, de happening, qui viendrait montrer, plus que démontrer, l'idée que les conditions carcérales, enfin ces relations sociales telles qu'imposées par le dispositif, produisent une violence, alors même que, en fait, c'est lui qui injecte cette violence dès le départ dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il prend la cause pour les effets et vice-versa.
Oui, tout à fait. En fait, il veut vraiment démontrer la force de la situation et que des individus lambda, interchangeables, peuvent agir de façon sadique sous la pression de la situation carcérale. C'est la seule explication qu'il trouve à tous les comportements qu'il observe. À chaque fois, il attribue ça à la situation, quel que soit ce qui se passe dans son expérience. Et donc, il va gommer tous les traits personnels des gardiens et des prisonniers. Il va pas essayer de voir s'il... l'histoire personnelle ou la personnalité ou le caractère des gardiens et des prisonniers peut expliquer qu'à tel moment ils soient plutôt sadiques ou que tel prisonnier soit plutôt prostré ou au contraire plutôt rebelle. Non, il va tout mettre sur le dos de la situation dans une perspective un peu caricaturale qui est celle de la psychologie sociale de l'époque où il y a un peu un débat entre les psychologues sociaux qui sont plutôt du côté des sociologues, du côté d'une explication par le contexte, par la situation, face aux psychologues de la personnalité, qui sont plutôt favorables à des explications en termes de disposition personnelle, éventuellement de même de génétique, qui disent voilà, les individus agissent de telle ou telle manière parce que c'est quelque chose qui est en eux et qui tient à leur histoire personnelle et à leurs caractéristiques individuelles.
Alors, ce qui est fascinant, c'est que bon, on comprend à la limite que un dispositif assez spectaculaire comme celui-là soit récupéré en dehors de la science par la culture, que des émissions de télé-réalité puissent être inventées, ça va être le cas à partir de ce dispositif. On comprend peut-être moins facilement de prime abord comment cette expérience, avec tous les biais qu'elle comporte, se trouve si facilement intégrée comme une référence incontournable dans la discipline, au point d'être figurée dans la bibliographie de beaucoup de livres, à la fois les manuels, vous citez celui de Tony Giddens, qui est bon, le grand manuel d'enseignement de la sociologie dans le monde anglo-saxon, mais l'équivalent pour la psychologie, mais aussi dans des livres, par exemple, le livre de Browning sur les tueurs...
Le 101e bataillon.
Le 101e bataillon, livre qui a été très, très, très largement lu, discuté, etc. Mais on trouve ces références faites comme une espèce d'évidence à l'expérience de Stanford, sans donner le sentiment qu'il y ait eu un débat scientifique autour de cette expérience.
Oui, tout à fait. Je pense que la communauté des psychologues n'a pas fait son boulot sur cette expérience.
C'est-à-dire qu'il y a une partie du coup, les historiens, les sociologues qui font confiance d'une certaine façon au milieu académique psychologue pour savoir ce qu'il en est, se font avoir parce que le travail n'a pas été fait dans le premier cercle, c'est-à-dire dans le monde de la psychologie comme discipline académique.
Oui, voilà, tout à fait. Bon, il y a eu évidemment des critiques. Donc, il y a Eric Fromm qui a émis.
Eric Fromm et Festinger qui sont les deux à émettre des critiques quand même. C'est pas n'importe qui,
oui,
c'est quand même
des
grands noms.
Oui, c'est des grandes autorités, oui. Mais voilà, ils le font. Festinger le fait 10 ans plus tard. Fromm le fait lui, mais c'est un peu un franc-tireur à cette époque-là. Il a un peu l'image plutôt du philosophe, donc c'est assez peu repris. Et il y a une partie des psychologues qui n'y croient pas, qui disent voilà, les résultats sont trop spectaculaires pour être vrais. C'est une expérience qui a eu lieu qu'une seule fois. Si on l'avait répété avec d'autres participants, ça se trouve les résultats auraient été complètement différents. Donc, pour nous, c'est de la junk science, ça n'a rien à faire dans les manuels. Donc, il y a une partie des manuels qui l'ignorent et une autre partie qui les reprennent. Mais le problème, c'est que les manuels qui l'ignorent ne critiquent pas l'expérience. Ils font comme si elle n'existait pas. Donc, ils laissent l'expérience circuler librement, alors qu'il aurait fallu vraiment la détruire, aller dans les archives, enfin, ou en tout cas essayer de voir ce qui s'était réellement passé, plutôt que de dire, non, on va pas en parler, on va faire comme si elle n'existait pas. Et c'est ce qui a permis l'expérience de prospérer. Il y a eu aussi la complicité des médias qui, eux aussi, ont pris l'expérience pour argent comptant et ont même pu pousser Zimbardo à caricaturer encore plus son expérience, à la dramatiser. Donc là, dans le livre, je cite le cas d'un reporter de la NBC qui a interrogé des gardiens, des prisonniers, qui a interrogé aussi les expérimentateurs. Et les entretiens ont été enregistrés et on entend pendant ces entretiens beaucoup de paroles divergentes, des expérimentateurs qui avouent qu'ils sont intervenus pendant l'expérience, des gardiens qui avouent qu'ils n'étaient pas du tout pris dans la situation mais qui jouent un rôle. Et pourtant, ce journaliste va choisir d'occulter tous ces bémols et va même pousser Zimbardo à dramatiser son expérience, à dire que c'était de plus en plus violent, qu'il y avait une escalade vers le pire et qu'on s'acheminait vraiment vers le drame, quoi. Et voilà, il y a eu cette complicité médiatique qui a beaucoup joué.
Je pense que là, on est au cœur de l'enquête, des leçons peut-être qu'on peut en tirer pour la situation actuelle. C'est-à-dire que ça pose la question de la communication de la science, au fond. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut rendre visible quand on fait une expérience scientifique de façon à partager les résultats avec un public plus large que celui simplement des spécialistes. Et ça pose la question de la manière dont on peut s'arranger avec les résultats pour rendre les choses plus spectaculaires pour pouvoir les vulgariser, entre guillemets, au point de produire de la junk science, pour reprendre l'expression qui est la vôtre.
Oui, tout à fait. Là, je pense que l'état de la recherche et le financement de la recherche fait que on va être de plus en plus à la recherche de financement sur le court terme, et donc il y a une nécessité de produire des résultats assez forts pour montrer la pertinence des recherches que l'on mène. Et donc, il y a peut-être une tendance à la spectacularisation des résultats de la recherche qui est induite notamment par l'état du financement de la recherche.
Peut-être on peut s'arrêter aussi sur cette personnalité, ce Zimbardo, professeur de psychologie, qui est toujours en vie,
oui, oui.
Avec lequel vous avez échangé pour mener l'enquête.
D'ailleurs. Oui, bon pied, bon œil. Il continue. Bon là, il a arrêté de faire de la recherche. Il s'occupe d'une fondation.
Si vous avez échangé avec lui, j'imagine que vous lui avez dit comment vous avez démonté toute cette expérience. Lui, il en pense quoi de tout ça aujourd'hui? Il y croit dur comme fer?
Oui, alors quand je lui ai parlé au début de mes recherches et que je l'ai interrogé par téléphone, c'était comme une sorte de répondeur automatique qui me donnait des réponses que j'avais déjà lues dans des centaines d'interviews. Il était plus du tout il n'avait plus aucun recul sur l'expérience. Il était vraiment il servait la soupe. Et quand je lui ai envoyé un article en anglais très substantiel où il y avait vraiment toutes mes critiques résumées, il m'a répondu que ça n'intéressait pas et qu'il ne voulait absolument pas avoir connaissance de mes travaux et que je n'avais plus à le déranger avec ça.
Mais alors, du coup, on se dit, mais il y a presque une expérience Zimbardo à mener, c'est-à-dire que comment quelqu'un se retrouve prisonnier de sa propre expérience et passe de la science à la croyance, finalement, au fil du temps, ou peut-être même était-ce déjà là dès le départ, mais ça s'est renforcé à force de raconter l'histoire, au fond.
Oui, puis on voit l'effet pervers de la médiatisation, c'est-à-dire que ayant mis la version officielle en circulation avant même d'avoir fini de traiter ses données, il était prisonnier de ce récit qui avait été publié dans des reportages, qui fait l'objet d'émissions de télévision. Donc c'était très dur pour lui de se dédire après coup et de dire « Attendez, en fait c'est plus nuancé que ça, j'avais pas toutes les informations quand j'ai commencé à donner des interviews ». Non, il s'est retrouvé prisonnier de la vague médiatique qu'il a lui-même contribué à lancer.
Et du coup, il est devenu une sorte d'entrepreneur aujourd'hui en... Comment on pourrait le qualifier ?
Maintenant, il vit c'est une sorte de rentier scientifique qui vit sur la postérité et la notoriété de son expérience. On le présente toujours comme Philippe Zimbardo, le père de l'expérience de Stanford. Mais il a arrêté de faire de la science. Maintenant, oui, c'est une sorte d'entrepreneur qui fait des conférences TED, qui fait des conférences richement rémunérées à travers le monde, mais pour faire des choses qui n'ont plus rien à voir avec la science.
Depuis que vous avez mené ce travail, est-ce que vous pensez que ça va avoir des répercussions dans la discipline psychologique? Est-ce que des gens vont ouvrir, au fond, avec vous, la boîte noire et essayer de mener désormais la critique?
Oui, alors la psychologie en ce moment est en plein bouleversement. Il y a eu beaucoup de scandales de réplications échouées. Il y a eu des scandales de plagiat. Il y a eu des procès entre scientifiques. C'est une discipline qui est vraiment sous le feu de la critique. Et il y a beaucoup de chercheurs, notamment des jeunes chercheurs, qui commencent à répliquer des expériences célèbres, qui commencent à aller mettre le nez dans les protocoles, à aller essayer d'interroger la façon dont travaillent les psychologues, notamment les psychologues expérimentaux. Donc mon travail s'inscrit dans ce courant-là, qu'on appelle couramment la méta-recherche aujourd'hui. Et j'espère que ça va contribuer à déboulonner certains monstres sacrés qui sont sacrés pour moi injustement.
Vous voulez dire que c'est une forme, une autre façon d'écrire l'histoire des sciences ?
Pour moi, oui, parce que c'est une sorte de mélange entre l'épistémologie où on va aller vraiment voir la méthode, on va aller voir comment sont posées les hypothèses, quels sont les instruments qui sont utilisés, comment ont lieu les expériences, donc qui mélange cette partie épistémologique avec une partie sociologique pour réinscrire le chercheur dans son milieu, pour voir d'où il vient, comment il travaille, avec qui il a des relations, comment il recrute les personnes dans son laboratoire, ainsi de suite. Donc de mélanger ces deux facettes de la recherche qui sont pour l'instant vraiment assez distinctes. Soit on va étudier, on va faire de la sociologie des sciences, soit on va faire de la méta-recherche, mais il n'y a pas de méta-recherche sociologique, on va dire. Et je pense que c'est un terrain de recherche extrêmement prometteur et fertile.
Il y a un véritable champ de recherche, de gens qui, dans différentes disciplines, ce que vous dites là pour la psychologie, ça vaut aussi pour des travaux en sociologie, par exemple ou...
Alors, assez peu pour l'instant, mais en médecine, beaucoup. Il y a John Ioannidis, par exemple, qui est assez connu aujourd'hui, qui fait vraiment un gros travail de méta-recherche au niveau de la biologie, de la médecine. Mais c'est quelque chose, à mon avis, qui est promis à un bel avenir, puisque c'est très très riche, et on se rendra compte qu'il y a beaucoup d'enquêtes de sciences sociales qui sont peut-être pas aussi solides que ce qu'on pense.
Et on se rend compte aussi que c'est pas les meilleures intentions du monde qui font les meilleures enquêtes du monde, puisque, faut le rappeler, Zimbardo partait d'une critique avec laquelle on peut par ailleurs être en empathie. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être un militant contre le carcéral à tout craint, mais il faut pas tout mélanger. D'un côté, être militant pour cette cause, par exemple, et puis de l'autre, faire de la science, ça devrait être deux activités différentes.
Oui, tout à fait. Moi, je suis vraiment partisan de l'auto-analyse, c'est-à-dire que le chercheur essaie de comprendre pourquoi il fait ses enquêtes, pourquoi il choisit tel type d'outils, pourquoi il choisit tel type d'objet, et que ça, c'est pour moi un réquisite de la scientificité des sciences sociales. Et le militantisme, évidemment, on va pas prétendre que personne n'a de croyance, personne n'a de valeur, mais il faut essayer de peut-être désamorcer les effets de ce militantisme, essayer de neutraliser les effets potentiels, de voir que le fait d'avoir tel type de conviction peut nous amener à introduire tel type de biais dans nos recherches, ce que ne fait pas du tout Zimbardo, où lui, au contraire, va dire « je suis anti-prison, donc ma recherche n'est d'autant plus scientifique parce que je suis vraiment impliqué dedans ». Enfin, il a une utilisation du militantisme, pour moi, complètement retors. Il va pas du tout essayer de s'auto-analyser pour comprendre ce que son militantisme va introduire comme biais, mais au contraire, le revendiquer comme une preuve de son honnêteté.
L'auto-analyse, la réflexivité, le fait de savoir ce qu'on est en train de faire quand on fait de la recherche sont des choses très très importantes, mais peut-être que ça suffit pas, peut-être aussi qu'il faut absolument garantir le pluralisme, les espaces de critique, de discussion, d'évaluation et de jugement. Et là, on est confronté à un double problème d'une certaine façon, celui dont on a parlé, qui est celui de la spectacularisation, de la nécessité de mettre en spectacle la science, qui n'est pas nouveau, il suffit de lire les travaux de Dominique Pestre pour s'en rappeler par exemple, mais on est confronté aussi à un autre problème qui, là, peut-être est plus récent, qui est celui de l'hyperspécialisation progressive des domaines de recherche qui font que les critiques viennent plus rarement qu'autrefois de positions plus éloignées. Et là, on pourrait trouver des critiques intéressantes. C'est-à-dire que parfois, il y a des critiques que la myopie de la spécialisation empêche, d'une certaine façon, Thibault Le Texier.
Oui, je suis d'accord, l'hyperspécialisation peut vraiment conduire à une recherche en silo où les gens ne dialoguent pas entre eux et où se constituent des petites chapelles où tout le monde est plus ou moins solidaire et essaie de faire prospérer cette petite chapelle.
Donc, réflexivité, auto-analyse, pluralisme, c'est un peu les armes dont on dispose.
Oui, après, c'est vrai que là, avec le développement d'Internet, avec le développement des blogs, avec le développement d'outils comme PubPeer, par exemple, dans les sciences, il y a quand même, on dispose d'outils de plus en plus nombreux pour essayer de mettre en question des recherches qui sont assez peu solides, pour essayer d'avoir un pluralisme le plus large possible dans les sciences sociales, où on n'est plus tributaire des grandes revues établies pour publier, on peut trouver d'autres supports de publication.
C'est vrai, et dans le même temps, on est aussi dans un monde où on est même invité à parler de sa thèse en 180 secondes, où on est sollicité pour faire des conférences TED ou ceci ou cela, qui sont scénarisées, qui relèvent du storytelling. Donc, c'est pas évident non plus.
Oui, mais moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que là, vraiment, on arrive à développer des outils pour avoir une discussion assez informée sur la science, même si je regrette que, dans les revues, souvent, la partie recension soit un peu fade, que on aimerait que ça soit, qu'on s'empoigne un peu plus. Bon, il y a des revues comme Zilzel qui font un travail important en ce sens-là.
Avec le canular, en particulier sur les autolibs.
Oui, voilà. Et puis, ils vont s'attaquer à des auteurs consacrés ou à des auteurs qui bénéficient d'une reconnaissance médiatique qui est disproportionnée par rapport à la qualité de leurs travaux. C'est vrai que la science reste quand même assez polissée et ça manque parfois un peu de critique, je trouve.
On revient à ces questions épistémologiques et notamment avec d'autres domaines de connaissances, avec un biologiste dans la deuxième partie de l'émission, Thomas Eames, mais on reste musicalement en Californie avec le troisième album de Jonathan Wilson. Let's look at me. Did I pirouette again? I was the dream. Just me and all that I could be. And have I sang of peace at least? Have I helped my fellow man at all? Ah,
Dans les idées, Sylvain Bourmont.
Histoire d'un mensonge, enquête sur l'expérience de Stanford. C'est le livre de Thibault Le Texier qui paraît aux éditions Zone et dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Nous en parlons désormais pour cette seconde partie avec Thomas Himes qui est biologiste, maître de conférence à AgroParisTech, également romancier, auteur de Sans cesse chinois au seuil. Thomas Himes, j'ai eu envie de vous proposer de lire ce livre parce que je sais que vous êtes attentif à ces questions d'épistémologie, à ces questions de débat public autour de la science également. Et je pensais que c'était intéressant d'ouvrir au-delà des sciences sociales plus largement. J'imagine que ces questions-là et le courant dont parlait Thibault Le Texier, qui consiste à refaire des expériences, à écrire autrement l'histoire des sciences sans nécessairement révérer des grandes figures, mais essayer de tester la solidité de ce qu'on considère comme des acquis, comme des résultats cumulatifs dans les disciplines, peut-être de manière trop rapide parfois, c'est aussi quelque chose qu'on voit. D'ailleurs, Thibault Le Texier le disait dans le domaine de la médecine, donc c'est quelque chose qu'on voit en biologie, plus largement dans les sciences dites dures ou les sciences de la vie.
Bonjour, merci. Thibault Le Texier a évoqué le travail de Ioannidis, hein, notamment, qui est de la méta-recherche et qui s'intéresse justement à mettre en évidence des problèmes de véracité, de véridiction. Et son corpus de travail, c'est la biomédecine, hein, c'est les résultats en biologie, on pourrait dire. Donc oui, moi je suis biologiste moléculaire et cellulaire, donc je précise que j'ai pas d'expertise aucune à propos de la psychologie, hein, je parlerai pas du tout d'un point de vue de spécialiste là-dessus, mais c'est vrai que la psychologie est loin d'être la seule discipline soumise à ce regard critique qui est à mon avis salutaire, puisque il y a énormément de résultats, notamment dans des thématiques extrêmement concrètes, hein, sur la recherche sur le cancer par exemple. Il existe des articles qui sont eux-mêmes des enquêtes sur d'autres articles et qui montrent que la reproductibilité d'articles, des résultats d'articles fondateurs sur le cancer, c'est-à-dire ceux qui sont cités plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de fois par toute la communauté, en fait cette reproductibilité est très critiquable. Et donc oui, c'est une situation qui est tout à fait valable aussi pour cette discipline et qui nous oblige d'une certaine manière, parce que on voit bien qu'elle nous place un peu au bord de la falaise, c'est-à-dire qu'il faut la regarder en face, il faut accepter l'autocritique, et puis il faut aussi ne pas perdre le bébé avec l'eau du bain et ne pas passer par perdre des profits toute la science, quoi. Et dans un écosystème très particulier, qui est celui dont vous avez abondamment parlé, qui est celui de l'économie médiatique, où tout est facilement simplifiable, y compris la critique, on pourrait, à ce petit jeu-là, penser que on pourrait rapidement condamner toute la science ou toutes les pratiques de chercheurs quand on fait rejaillir la faillibilité de certaines expériences.
Alors ça, c'est un point intéressant dont on n'a pas encore parlé, effectivement, Thibault Le Texier, c'est-à-dire que le risque... Mais peut-être le risque est-il plus grand d'ignorer la fragilité de certains travaux, puisqu'il risque de discréditer l'ensemble des recherches.
Oui, alors c'est pas du tout l'objectif du livre. Dire tous pourris, les scientifiques sont des escrocs. Non,
c'est le contraire même.
Non, c'est le contraire, c'est de dire moi-même je suis scientifique et de dire la science a la possibilité de se corriger, bon même si c'est au bout de 50 ans, mais je crois tout à fait à la science et je crois à la quête de la vérité entre guillemets, bon même si c'est une quête chimérique et que la vérité est toujours difficile à atteindre, mais pour moi il faut pas lâcher cet idéal de vérité.
Oui, et c'était pas du tout une critique du livre à ce propos, parce que c'est extrêmement clair dans le livre, notamment dans sa dernière partie où il y a une sorte d'envolée comme ça confiante et un peu optimiste, en tout cas engagée sur ces valeurs-là, qui encadrent bien je trouve le propos du livre et qui ne rend d'ailleurs que plus pertinente le travail précis, rigoureux de déconstruction de cette expérience qui provoque un véritable...
Oui, qu'est-ce que vous en avez retiré, vous, comme leçon épistémologique, même si c'est sur un champ totalement différent du vôtre, mais... Il y a des règles générales, il y a des choses
Ah oui, il y a un effet de saisissement qui est incroyable. D'abord, il y a l'expérience elle-même. J'en avais un petit peu entendu parler, mais pas dans les détails. À supposer même qu'on laisse de côté tout le travail de dévoilement que vous avez fait sur, en fait, les manipulations qu'il y avait dans cette expérience. Enfin, quand on voit le dispositif tel qu'il est présenté et assumé par son auteur, on est frappé par son côté grotesque. Enfin, je vous avais donné tous les détails, mais j'en rajoute certains qui sont dans votre livre. La présence d'une pom-pom girl qui est là à un moment pour accueillir les visiteurs, les rôles qui sont extrêmement caricaturaux, les déguisements. Enfin, voilà. On est quand même frappé par ça et on se dit comment cette communauté a pu accepter, j'ai envie de dire métaboliser ce protocole comme normal et accepter qu'en quelques jours en ressortent des traits humains complètement déviants et complètement extrêmes. On se dit il y a quelque chose qui nous interroge et pas, et je le dis pas pour critiquer la communauté des psychologues, ça me fait plutôt réfléchir à qu'est-ce que moi je suis capable de gober dans ma propre discipline quand j'ai pas le temps d'aller regarder toutes les notes et de refaire toutes les interviews et d'aller dans les cartons d'archives. Donc ça c'est un premier effet de saisissement. On se dit cette expérience qui est présentée dans le livre comme quand même très importante, fondatrice en tout cas dans la culture commune et la culture académique quand même des psychologues, comment elle a pu être à ce point ne pas être interrogé par toute la communauté. Et puis le deuxième effet de saisissement, bah, c'est évidemment ce que vous avez résumé comme le pot au rose, c'est-à-dire tout le degré de manipulation incroyable qui est présenté, à tel point qu'on se demande pas à un moment s'il n'y a pas une troisième mise en abîme, si on n'est pas nous-mêmes le lecteur l'objet d'une petite expérience par un auteur particulièrement facétieux. Ah oui, à un moment dans le bouquin, vous citez quelqu'un qui dit plus un résultat est surprenant, moins il a de chances d'être vrai. Donc on se dit, bah la logique voudrait même qu'on questionne l'entreprise qu'on est en train de lire. Bon, alors, je m'empresse de préciser que non, il n'y a pas de canular. Tout ça a l'air d'être parfaitement balisé et documenté. Et c'est d'autant plus.
Mais votre réaction, c'est bon signe. C'est ouais. Le doute qui doit jamais quitter l'esprit.
En tout cas, le doute méthodologique, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça nous rend extrêmement modestes sur la manière dont on construit ce type d'expérience. Et ça nous incite évidemment à réfléchir. Je pense aujourd'hui, alors c'est là où j'ai peut-être éventuellement une petite nuance par rapport à ce qui a été dit, c'est que moi je suis pas très optimiste sur l'équilibre là qu'on a évoqué entre la puissance que l'internet peut avoir pour
mutualiser,
détecter les problèmes. Elle existe, hein, ça c'est clair, mais je pense que la puissance du spectacle qui est générée par l'économie numérique est extrêmement énorme, forte, et qu'elle recouvre, elle a plutôt tendance à recouvrir le reste. Alors, je ne demande qu'à être trompé, hein, évidemment, et je suis d'accord qu'il y a des ressources internes qui ont été évoquées par Thibault Le Texier, mais je crois que, enfin, moi, ce que je me suis dit à la fin en lisant ce bouquin, j'ai essayé de mettre un peu des mots sur ce que je pensais, et je me disais que quelque chose qui manque à tout ça, clairement, c'est la sobriété. Et c'est une dimension de la science qu'on oublie, nous, les chercheurs, peut-être, de mettre en avant. C'est pas quelque chose de triste, la sobriété. C'est une sorte d'exigence, de recul. Et que si on considère que la science serait une sorte de rencontre entre le courage et la sobriété, on a peut-être un chemin pour avancer.
Alors la question c'est, est-ce que la sobriété est compatible avec le 2.0, monde numérique dans lequel on vit, Thibault Le Texier?
Oui, c'est sûr que là maintenant, une expérience comme celle-ci, elle serait immédiatement mise en ligne, elle serait tweetée, elle serait reprise.
Peut-être même en Facebook Live ou.
Oui, tout à fait, oui. Oui, donc ça, c'est évident qu'il y a un danger et que la science doit résister à ce désir de plaire à tout prix, à ce désir de spectaculaire. Les chercheurs doivent pas se mettre en spectacle. Ils ne doivent pas aller sur des plateaux télé pour raconter leur vie personnelle, des choses comme ça. Ça, je pense que c'est relativement, pour moi, protégé. Ça reste quand même assez... on n'est pas comme en littérature, où là, il y a des excès, pour moi, de mise en spectacle qui sont quand même bien pires que dans les sciences. Ça reste quand même beaucoup plus protégé.
Thomas, il y a néanmoins une pente quand même. Enfin, moi, clairement, je suis un peu plus pessimiste. J'avais un peu regardé ça alors de manière très empirique, mais de temps en temps, voilà, on reçoit des communiqués de presse ou quand on s'abonne à des sites de science, on reçoit des informations sur telle ou telle découverte scientifique. Et je me souviens une fois d'une dépêche scientifique disant. On a trouvé le gène qui permet d'identifier pourquoi on paraisse devant sa télévision, le Couch Potato Gene. Mmh. Et cette dépêche était accompagnée d'une photo d'une souris qui paraissait sur un mini canapé. Et j'ai été remonté un peu à la source. Et en fait, cette photo complètement spectaculaire et bétifiante de la manip avait été fourni par l'université. Le communiqué de presse était évidemment rédigé par le service de communication de l'université. Et cette photo avait été fournie par l'université elle-même pour alimenter, évidemment, la communication autour de cette découverte, qui par ailleurs était une découverte intéressante d'un jeune en particulier et qui n'était pas le smoking gun de ce problème. Et donc, il y a aussi cette espèce de, voilà, d'effet d'entraînement, si j'ose dire, où, y compris les lieux de production primaire du savoir, que sont les universités et les centres de recherche, de manière assez docile, finissent par donner au spectacle ce qu'il attend pour pouvoir espérer qu'on parle un peu de science, quoi.
Ben là, c'est très clair. Thibault Le Texier, la contrainte, enfin en tous les cas ressentie comme telle par l'université, c'est qu'il fallait une image pour illustrer une recherche. Et donc, elle a été amenée à produire une image spectaculaire, précisément le genre d'hameçon à clic, comme on dit aujourd'hui sur Internet, une image qui va donner envie parce que c'est lol, ou parce que ça énerve, ou parce que ça fait rire, ou ça fait pleurer.
Oui, après, il ne faut pas non plus que les scientifiques s'enferment dans une tour d'ivoire ou s'enferment dans l'entre-soi en disant, voilà, on peut que produire des articles scientifiques avec des centaines de notes en bas de page et un vocabulaire extrêmement technique et absolument aucun effet de style ou de narration. Je pense que il y a une crête assez ténue.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que votre livre est très bien écrit. Il se lit vraiment rapidement d'une traite. Enfin, il y a un récit
comme un polar,
fort.
Absolument. Oui, ben, je pense. Moi, je suis vraiment partisan pour le recours aux techniques qui ont été développées ou raffinées par la fiction. Donc des techniques de narratives, par exemple, ou des techniques stylistiques qu'on peut emprunter à la littérature ou qu'on peut emprunter au cinéma. Donc le fait d'utiliser des monologues intérieurs, d'utiliser des dialogues, d'utiliser dans les écrits de sciences sociales aussi par exemple des flashbacks, d'utiliser aussi ce qu'on appelle le cliffhanger dans les séries, qui consiste à terminer un épisode de série en commençant l'épisode suivant. Donc si on casse l'action, on est interrompu en pleine action, et donc ça crée un effet d'attente et de suspense. Donc pour moi, tout en restant évidemment attaché au fait.
Dès lors qu'on sait ce qu'on fait, quand on est en train de le faire.
Il faut rester scrupuleusement attaché au fait et pas commencer à imaginer, à introduire de la fiction dans les faits. Mais on peut utiliser les outils de la fiction pour parler des sciences sociales et pour les rendre plus accessibles.
C'est pas Thomas Himes qui vous contradira, qui lui-même a écrit un roman, écrit de la littérature à côté des recherches scientifiques qu'il fait, mais il mélange pas les deux.
Non, je mélange pas les deux, mais par ailleurs, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne plaidais vraiment, évidemment pas pour la tour d'ivoire des chercheurs. C'est très important de le rappeler, mais c'est vrai que dans le moment dans lequel on vit, avec une puissance de l'économie médiatique dont on est évidemment tous au courant, c'est un vrai défi de retourner les armes de ce système un peu contre lui-même pour pouvoir trouver des modes de narration et d'implication du public dans les recherches qu'on fait, ce qu'il faut évidemment faire en plus de son travail académique primaire.
Merci Thomas Himes d'être venu parler de ce livre, le livre donc de Thibault Le Texier, que je remercie également, Histoire d'un mensonge, enquête sur l'expérience de Stanford. Il paraît chez Zone. Vous trouvez la référence bibliographique sur la page de l'émission, la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter cette émission, une page également où vous pouvez vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet à la technique, Julie Garraud à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Dans quelques instants sur l'antenne de France Culture, c'est Christine Bernard que vous retrouvez pour une histoire particulière.